explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'un jeune aventurier qui aimait les situations extrêmes et les décharges d'adrénaline qu'elles procurent. Mais arrivé à l'âge de 30 ans, après avoir participé à des expéditions difficiles et dangereuses dans les coins les plus inhospitaliers de la planète, de l'Alaska à la Patagonie en passant par l'Himalaya et la forêt amazonienne, notre explorateur, Evrard Vandenboom, a éprouvé le besoin d'ajouter du sens aux sensations. Il a voulu mettre ses savoirs, ses capacités physiques et son expérience au service des sciences. Il a alors créé l'association Nature Évolution qui a pour but d'explorer et de protéger les derniers mondes perdus de la planète. C'est ce qui l'a conduit à mener une grande expédition au Groenland avec une équipe de chercheurs, d'alpinistes, de spéléologues et de plongeurs. Ensemble, ils se sont aventurés dans des zones encore très peu étudiées. Ils ont escaladé les icebergs, plongé dans les entrailles des glaciers afin de recueillir les murmures de la glace. Evrard Vandenboom était venu nous raconter cette belle aventure scientifique en juillet 2017. Cet après-midi, nous vous proposons de repartir avec lui dans les glaces du Groenland. Et en fin d'émission, entre désert hostile, île oubliée et territoire interdit, nous découvrirons quelques lieux singuliers de notre planète avec Aude de Tocqueville, auteur d'un atlas des terres sauvages aux éditions Artaud. Voilà pour le programme de cette émission, préparée par Hugo Struna et réalisée par Anne-Sophie Ladonne et David Leprince, avec à la technique Philippe Duclos. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est parti. Mister, bonne aventure. Amuse-toi bien, profite.
Yes.
Fais attention à toi.
Vous aussi, amusez-vous bien.
Safety first et bon trip. Écoute bien la nature autour de toi.
Ressource-toi.
Ouais.
Salut.
Evrard Vandenboom partant seul pour plusieurs jours sur une des dernières terres vierges du Groenland. C'était sur la calotte du Rhineland. Décrivez-nous cet endroit où vous étiez seul. Alors là, pour le coup, vous étiez seul pendant quelques jours.
En fait, c'est un territoire assez grand, donc le décrire en deux secondes, ça va pas être facile, mais ouais. Ça fait à peu près 100 km de diamètre, on va dire. C'est une sorte de patatoïde couverte de montagnes, de pics, de glaciers, de lacs. Il y a une calotte glaciaire qui couvre à peu près les deux tiers. Et puis, il y a une grande vallée qui découpe littéralement l'ensemble de cette péninsule, donc qui s'appelle le Rhineland. Une vallée qui, pour le moment, n'avait jamais été visitée parce que trop compliqué. Il y a des glaciers qui font un peu plus de 10, 12 kilomètres de long, qui sont, faut imaginer, des parois de pratiquement 1500 à 2000 mètres de dénivelé juste au-dessus, donc qui partent du lac et qui montent vers les sommets. Il y a énormément de sérac qui se jettent dans les lacs, etc. Donc c'est des coins où on peut pas vraiment se balader facilement. Nous, aujourd'hui, grâce à des tout petits engins, notamment on appelle ça des packrafts, c'est des petits bateaux qui sont gonflables et qui pèsent 2,5 kg une fois qu'ils sont repliés, et puis quand on peut se mettre dessus, pagayer, etc. Ça permet d'accéder dans ces coins perdus. Ouais. Et puis c'est des moraines, beaucoup, beaucoup de moraines.
Alors, c'est quoi une moraine?
Une moraine, c'est ce qu'on trouve sur les côtés des glaciers, sur les fronts des glaciers. C'est tout ce qui est charrié par le glacier, donc des blocs, du sable, des graviers qui viennent se déposer et qui font des sortes de rainures comme ça, assez hautes, hein, qui peuvent parfois faire plusieurs dizaines de mètres de haut, et qui sont très instables, toujours très instables. Donc on se balade là-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, et c'est un peu dangereux.
Et pour la partie en solitaire de ce périple, ça a duré 2 mois, mais pendant 4 jours vous étiez seul. Dans quel état d'esprit on est quand on se retrouve face à tout ça, tout seul?
Alors c'était un choix, hein. On m'a pas
oui,
mis là.
Oui, bien sûr, on est d'accord. Vous n'étiez pas fâché avec le reste de l'équipe.
Non, du tout. Mais c'est vrai que, en revanche, après un mois et demi ou ouais un peu plus en commun avec toute l'équipe, j'avais à un moment donné envie de vivre un truc à moi. Et c'est vrai aussi que un des objectifs principaux de cette expédition, c'était d'aller découvrir cette vallée, et qu'on s'est aperçu que les contraintes logistiques, humaines, etc. de l'ensemble de l'expé et de l'équipe faisaient qu'on pouvait pas accéder dans cette vallée. C'était trop compliqué, trop long, trop lourd, trop pesant, etc. et physiquement trop exigeant. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je rentre en France sans y être allé? Non, ça c'était pas possible. Donc voilà, je me suis dit, tiens, j'ai une petite opportunité. À un moment, on était en train de déplacer un campement d'un coin à l'autre du fjord. Et voilà, on m'a déposé et je suis parti pour 4 jours. Donc j'étais dans une vraie satisfaction parce que c'était la fin de l'expédition. Mmh. On avait réussi pratiquement tout ce qu'on voulait faire. Enfin, c'était même au-delà de toutes nos espérances, tellement c'était beau et riche. Et en même temps, j'avais rien vécu seul. Enfin, j'avais envie de savoir ce que ça pouvait justement provoquer comme sensation. Et notamment ressentir une petite vulnérabilité, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout quand on est en équipe. On se fie toujours à l'autre. Mmh. Enfin, on finit par se laisser aller presque à des bêtises, hein, parce que là on a des ours polaires, on a des bœufs musqués, on a tout un tas de choses. Et quand on a une équipe autour, on fait moins gaffe à tout ça. Mmh. Et là, tout seul, il y a plus un bruit, à part le bruit de la montagne, de la rivière, etc. Et tous les 100 mètres, on regarde derrière pour savoir s'il n'y a pas un ours qui vous suit. Puis on fait toutes les manips avec beaucoup plus d'attention. Voilà, ça m'a pas empêché de tomber plusieurs fois, de faire des erreurs grossières, mais voilà, non, c'est génial, c'est fabuleux d'être tout seul.
Alors le reste de l'expédition, vous l'avez vécu avec toute une équipe, et ça avait l'air d'être absolument formidable et intense ce que vous avez vécu là-bas pendant 2 mois.
Ouais. On a vraiment été une petite équipe là d'une 15-16 personnes sur le terrain, tantôt sur la toundra, tantôt sur les glaciers, tantôt sous l'eau. Et ça a été, ce que je disais tout à l'heure, d'une richesse incroyable, parce que d'une part, ce sont des paysages que moi je connaissais pas. Le côté arctique, l'ambiance arctique, c'est un truc qui m'a complètement frappé dès le départ. On a eu la chance d'arriver en bateau et il faut imaginer que là maintenant on a pris tous l'habitude de voyager en avion. Mais en bateau, ça a rien à voir. C'est beaucoup plus fort. Alors en plus, il y a dans ces eaux arctiques, il y a toujours une sorte de petit voile. On va appeler ça une sorte de léger brouillard de 20-30 mètres d'épaisseur, juste à la hauteur de l'eau. Donc quand on arrive en bateau, on est tout le temps dans un brouillard complet, mmh. jusqu'au moment où tout à coup, ça se découvre. On vient de rentrer dans le fjord, le soleil claque partout, les glaciers brillent dans tous les sens, et on voit des machins blancs là qui flottent partout. Et ces machins blancs, plus on s'approche, plus on s'aperçoit que ce sont des immeubles qui des immeubles de glace. C'est d'une beauté vraiment incroyable. Et je dirais que ce qui moi m'a dépassé le plus, ce qui m'a frappé le plus, c'est pas les images, c'est les sons. Ouais. Parce que on a comme ça dans notre idée une idée de silence total en Arctique. C'est absolument pas le cas. Et notamment ces icebergs font un bruit en permanence. On a l'impression d'être dans une nuit d'orage. Tout le temps, que ce soit nuit et jour, dès quand on prend le petit déj, il y a de l'orage quelque part. En fait, c'est pas de l'orage, il fait grand beau, mais il y a des icebergs qui se retournent, qui craquent, etc. C'est fantastique.
En plus, vous vouliez grimper. C'était un peu un rêve de gosse. Vous vouliez grimper au sommet de l'un de ces icebergs. Alors, c'était l'une de vos premières missions scientifiques, d'ailleurs, qui consistait à aller écouter les icebergs en plantant des capteurs dessus. Mais pour approcher un iceberg, il faut y aller prudemment.
Tu vois les stries, tu vois, on voit quand tu regardes le flanc de l'iceberg devant nous là, on voit qu'il a quelques stries qui sont un peu inclinées. Donc il a déjà cassé et il a déjà un petit peu basculé certainement plusieurs fois. Et il y a toujours un risque, il pourrait se péter en deux là dans les 3 minutes, on n'en sait rien en fait.
Aïe aïe aïe, c'est super beau.
Dangerous or what do you think?
What group?
T'as pas l'air d'être mort.
Je me dis que là, quel que soit l'iceberg, ça va faire des
craques. Ça risque de craquer pareil. Je pense aussi.
On vient de l'entendre, hein, ce fameux craquement. C'est vrai que ça ressemble au tonnerre. Hein, cet iceberg qui tout d'un coup s'anime. Qu'est-ce qui produit ce bruit sourd? Faut bien se représenter. Hein, vous êtes dans un petit bateau à moteur au pied de cet immeuble de glace, comme vous avez dit tout à l'heure. Et tout d'un coup, ça tonne.
Ouais, c'est vraiment une fracture un peu comme un séisme. Hein, il faut imaginer une micro-plaque continentale, voilà, qui flotte et qui à un moment donné se dilate ou se contracte. Voilà, en l'occurrence, elle a plutôt tendance à se dilater parce qu'elle fond. Et du coup, ça fait à un moment une fissure et cette fissure se propage avec un bruit associé. Et ce bruit se propage non seulement dans la glace, mais il se propage aussi sur l'eau. Et ces fjords sont souvent des eaux très calme, comme un lac le matin, quoi. Du coup, le son se propage très très vite et très loin. Et c'est, ouais, c'est assez fort. Surtout quand on est juste à côté. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'était ça. J'étais en train de m'approcher. Je pense qu'on était à 50 cm du mur de glace quand j'allais planter le premier piolet. Et là, ça a craqué. On est parti. Ça fait bizarre.
Ça ne vous a pas empêché d'y retourner. Et vous allez le grimper, cet iceberg. Hein, vous allez arriver au sommet de cet iceberg. Et vous allez pouvoir disposer des micros et enregistrer des sons surprenants que l'on écoutera dans un instant. Évrard Vandenbaum nous emmène écouter les murmures de la glace au Groenland, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Tes doigts sur ma peau, poisson dans l'eau, qui ne rêve qu'à s'unir pour survivre. Tes lèvres à moitié chaudes promettent des choses grandioses. Je rêve encore d'une autre vie. Je rêve encore d'une autre vie. Et pourtant tu l'as trouvé, toi. Et pourtant tu l'as cherché.
C'était une autre vie d'Iliona sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Vas-y, vas-y, va à gauche. Tu vas jusqu'au bout du ruban, hein, voilà. Super. Encore. Stop.
Quand on a plein de capteurs, on va faire deux lignes comme ça en L. Là, bah, il y a un capteur ici, on a déjà mis 6 sur cette ligne. Et tous les 10 mètres, on va faire un trou avec une broche et puis planter le géophone.
Tout est opérationnel, donc il n'y a plus qu'à l'installer. Et là-dedans, dans mes mains, visiblement, il y a une dizaine de géophones qui vont enregistrer les petites vibrations de ça. Oh, cette ambiance.
Cette ambiance, Évrard Vandenbaum, arrivé au sommet de son iceberg. C'est un extrait de votre film documentaire très beau, Scoresby, les murmures de la glace. Scoresby, c'est cette région où vous étiez, hein, qui se trouve donc à l'est de la côte groenlandaise. C'est le plus grand fjord du monde. Le but de votre expédition, Évrard, c'était quoi?
Alors le but général, c'était d'essayer de mieux connaître cette région, parce que c'est... La côte est du Groenland, c'est celle qui est la moins explorée, la moins étudiée. Et le Scoresby est tellement immense, il faut imaginer, là, vous venez de dire que c'est le plus grand fjord du monde. En fait, si on prend de l'entrée au bout du fjord, il y a 350 kilomètres. Ouais. Donc c'est vraiment gigantesque. Et là-dedans, il y a tout un panel d'écosystèmes différents. Donc nous, ce qu'on venait, on avait plusieurs sujets de recherche voilà, sur ces différents écosystèmes. Donc on a un peu fractionné l'expédition qui a duré 2 mois. Sur ce, voilà, 3 semaines par-ci, 2 semaines par-là, 3 semaines par-ci, et on a essayé de comprendre un petit peu mieux différents aspects de ces milieux-là qui sont très riches mais très, très changeants. Voilà, c'est en totale mutation cet environnement, et on venait pour essayer d'apporter un peu notre pierre à l'édifice de la compréhension de tout ceci.
Et là, en l'occurrence, sur le toit de cet iceberg, avec vos géophones, cette sorte de micro pour enregistrer les vibrations de la glace, c'est ça?
Y compris celles que nous, on peut pas entendre, hein, c'est vraiment ça a une sensibilité extraordinaire, ces microphones, donc c'est géophone, du coup on peut entendre des toutes petites fractures, des tout petits séismes, et l'objectif était d'essayer de comprendre comment se fracture un iceberg, pourquoi, c'est-à-dire quel est le facteur qui le fait, le facteur principal, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui le font se fracturer, mais lequel est le plus prépondérant, et à quel moment, est-ce que c'est tout le temps, est-ce que les fractures se font à l'extérieur de l'iceberg ou complètement au centre. Voilà, tout ça, ces géophones nous permettent de localiser ces sons.
Alors pour placer ces géophones, c'était le sismologue Éric Larose qui était à la manœuvre et qui était très impatient d'enregistrer ces sons avec ces appareils si particuliers.
Pour tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça résonne, comment le son va résonner dans l'iceberg, comme une cathédrale. C'est une cathédrale de glace qu'on a là. Et quand on tape dans une cathédrale, il y a un écho monstrueux pendant très longtemps. Et je pense que dans cet iceberg-là, on devrait pouvoir enregistrer la même chose. Quand ça va craquer à un endroit, ça va réverbérer, ça va résonner dans tout l'iceberg. Et ça, ce serait vraiment chouette de l'observer sur un iceberg. Je crois que ça n'a jamais été fait. Et voilà.
Et voilà donc ces sons que vous avez enregistrés avec ces géophones. On a vraiment l'impression de pulsation. Ça donne presque un aspect vivant tout d'un coup à ce bloc de glace.
Ouais, et c'est en permanence. Et nous, on les entend pas, donc on se balade là-dessus. On est un peu comme sur une plateforme flottante. Hein. Un iceberg, c'est rien d'autre qu'un bout de glacier qui s'est détaché et qui flotte. Mais du coup, à la surface, on a des petits ruisseaux, on a des petites flaques, on a des petits monticules, on a vraiment comme si on était à la surface d'un glacier, sauf qu'on est entouré d'eau. Et on se doute pas du tout que ça craquelle comme ça, sauf quand tout à coup, il y a une grosse déflagration, comme on a entendu tout à l'heure. Et là, pour le coup, on a l'air tout petit, là.
C'est amusant, comme lors de votre exploration, le son est très présent. C'est-à-dire que sous l'eau, vous utilisez des hydrophones. Lorsque vous êtes dans les cavités des glaciers, là encore, vous avez des appareils. Partout, vous avez essayé de capter des vibrations.
Ouais, parce qu'en fait aujourd'hui le son c'est une on va dire une nouvelle méthode scientifique, hein, c'est-à-dire qu'on peut vraiment analyser énormément de choses ou déduire énormément de choses du son. Quand on disait tout à l'heure qu'on utilisait des hydrophones, nous par exemple ce qu'on essayait de faire c'était d'essayer de définir les paysages acoustiques sous-marins, et en l'occurrence on va pouvoir, avec nos études et nos enregistrements comparés à tout un tas d'autres études et d'autres enregistrements faits à travers toute la planète, définir qu'est-ce qui fait un écosystème en bonne santé, et du coup pouvoir comparer avec d'autres écosystèmes qui sont par exemple qui commencent à être dégradés, voire qui sont très dégradés, de pouvoir voir qu'est-ce qui est affecté dans le son. Et à partir de ça, quand on va envoyer quelqu'un dans un coin de la planète, ça peut être sous les tropiques ou ailleurs, s'il enregistre un son et qu'il nous le ramène, on va pouvoir dire si cet écosystème est en bonne santé ou en mauvaise santé. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin, dans un laps de temps, voilà, c'est pas tout de suite, mais dans un moyen terme, on n'aura peut-être plus besoin d'aller faire une étude sur le terrain, de savoir combien d'espèces on a, etc. Rien qu'avec le son et les fréquences, on va pouvoir savoir justement quelle est la quantité d'espèces qu'on a, la concentration d'espèces, etc.
Un peu comme un médecin avec son stéthoscope qui vous écoute respirer, voit si ça se passe normalement. On aurait une idée du son normal que doit faire un écosystème en pleine santé.
Tout à fait.
Et d'un son un peu altéré.
Ouais.
Une mesure de la biodiversité.
Et ça se fait maintenant sur tout type d'écosystème. Là, nous, on l'a fait sous l'eau, on l'a fait donc évidemment sur les glaciers, mais là c'était pas pour les écosystèmes, c'était pour essayer de comprendre la mécanique du glacier. Mais je sais que ça se fait aussi par exemple sur la canopée. Il y a des gens qui viennent placer des micros, juste enregistrer la canopée. Et puis il y a d'ailleurs un scientifique qui a fait ça récemment, et il y a eu une exposition à Paris où il comparait, où il permettait aux visiteurs, comme vous et moi, d'écouter une forêt il y a 30 ans et la même forêt 30 ans plus tard.
Il y a une différence.
Ah ouais. Puis ça fait la chair de poule. Ouais,
le silence s'installe.
Ouais, exactement.
Vous êtes aussi parti étudier les glaciers lors de votre expédition au Groenland. Qu'est-ce que vous souhaitiez voir avec les glaciers?
Alors, nous, la principale recherche consistait à essayer de comprendre est-ce que l'eau de surface, donc les eaux de fonte, qui sont liées bien sûr au réchauffement climatique, enfin qui sont liées à la température extérieure plus clairement, est-ce que cette eau de fonte et cette variation de débit qui dépend de la journée, de la nuit, etc., a un impact aussi sur la vitesse de déplacement du glacier et donc sur son écoulement et sur sa disparition, si je réduis un petit peu. Et voilà, donc en fait on a fait ça grâce au son. On a pu comparer le débit de l'eau et la quantité de vibration ou de fracturation, on va appeler ça comme ça, que ce glacier générait. Et à partir de ça, on a pu savoir si plus il y a d'eau, plus il y a de fracturation, etc. Et il y a effectivement un lien très fort qui peut nous indiquer que plus il y a d'eau de fonte, plus le glacier bouge, ouais, c'est-à-dire plus il va vite, ce qui veut dire aussi que si la température augmente extérieurement, il y aura encore plus d'eau, et ouais, donc le glacier ira encore plus vite. C'est-à-dire que non seulement il fond plus, mais il va plus vite vers le bas.
Oui, donc il disparaît de plus en plus rapidement. Vous dites, on mesure sa vitesse, ça avance vite un glacier? C'est quoi l'ordre de grandeur de la vitesse d'avancement d'un glacier?
Oh, c'est plusieurs centaines de mètres par an, donc ça dépend des glaciers, hein. Il y a de tout. Mais si on prend certains glaciers d'Himalaya, ils peuvent faire jusqu'à 8 mètres par jour.
Ouais, ça va vite, hein, quand même, 8 mètres par jour, c'est un paysage en mouvement, vraiment.
Fou, ouais, c'est complètement fou. Au Groenland, bien sûr, c'est beaucoup plus lent, parce que ce sont des masses bien plus importantes et sur des étendues, voilà, il y a moins de dénivelé, ça descend beaucoup moins. Mais ça progresse quand même de plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres par jour.
Ouais. Ouais. Alors, à la surface de ces glaciers, au Groenland, coule des rivières, c'est absolument superbe. C'est tout un réseau ramifié de rivières dans lequel, alors, vous vous éclatez. Moi, je vous soupçonne de ne pas faire que des sciences tout le temps. Vous avez fait du rafting dans ces rivières. On a l'impression d'être dans un parc pour
un parc aquatique. C'est exactement ça. On est dans des sortes de toboggans naturels, de glace, entourés de glace. C'est féerique, hein, complètement. Ouais. En plus, de temps en temps, on rentre dans des tunnels parce que la glace s'est refermée au-dessus. C'est dedans, c'est vert, c'est bleu, c'est absolument féerique. Et on se balade, on tombe à peu près tous les 2 mètres parce que ça glisse énormément. Mais c'est assez féerique. Et puis, alors, pour rebondir sur votre remarque, oui, on fait de la science et on y va pour faire de la science, bien entendu. C'est ce qui donne effectivement le sens à l'expédition et c'est le but principal de l'expédition. Maintenant, on est tous au sein de l'association, et puis même nous tous. Enfin, je pense qu'on a tous un peu une âme d'enfant, une âme d'aventurier, etc. On a tous à un moment envie de profiter de l'espace dans lequel on est. On n'est pas au Groenland tous les jours. On n'est pas sur des glaciers de 80 km de long tous les jours. On n'a pas des bédières, donc ça s'appelle des bédières, ces rivières de surface qui font jusqu'à 10 mètres de large tous les jours. Voilà, c'était tellement tentant, on pouvait pas passer à côté sans se mettre en bateau.
Mais alors, l'émerveillement n'est jamais très loin du danger. On se rend compte, vous vous amusez beaucoup, mais tout d'un coup, ça s'accélère. Ça tombe à pic, les rivières qui coulent dessus peuvent s'enfoncer à l'intérieur du glacier et devenir des sortes de tourbillons qui pourraient vous entraîner. Alors, on n'est jamais très loin du danger quand même.
Ouais, normalement on essaie de d'anticiper un peu tout ça. Donc quand on se met à l'eau, notamment sur une bédière, on sait que le moulin, donc l'endroit où la bédière chute à l'intérieur du glacier, il est pas à 100 mètres plus loin, il est quand même un petit peu plus loin, on a un peu de marge. Ceci dit, aucun de nous n'avait jamais descendu une bédière en rafting, donc on savait pas du tout si on allait pouvoir s'arrêter facilement, donc on a tendu des cordes en travers de la rivière au cas où pour pouvoir les attraper. Ouais, l'adrénaline fait partie de ce genre d'expédition, c'est aussi ça qui fait le piment, qui fait le plaisir. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est l'adrénaline est pour beaucoup dans le plaisir que j'ai à vivre ce genre d'aventure.
Alors, vous avez évoqué le moulin, cet endroit où la rivière, la bédière, plonge à l'intérieur du glacier, s'engouffre dedans. Évidemment, vous et votre équipe, vous n'avez pas résisté à plonger dans ces fameux moulins. Description de cette plongée hors du commun par Laurent Marie, apnéiste, qui vous accompagnait.
Donc arrivé en bas, donc l'eau bien sûr était froide, hein. Voilà, je l'ai eu à 1 degré sur mon profondimètre. En fait, il y avait une grande faille qui descendait à entre 5 et 6 mètres, donc il y avait peu de profondeur. Et au fond de cette faille, il y avait du sable noir. Du sable noir qui était aussi pailleté. Et avec les remous de la cascade, toutes ces paillettes qui brillent s'envolaient comme une pluie d'étoiles. Et à cette profondeur, j'étais dans le calme. Bien sûr, on entendait beaucoup moins ce vacarme. Et j'avais l'impression de flotter parmi ces étoiles, parmi ces paillettes. C'était complètement fou, complètement fou.
Laurent Marie, apnéiste, il n'avait pas de bouteille. Là, il était en apnée quand il a fait cette plongée, Evrard Van Den Boom.
Ah oui, je confirme. oui,
il est dans une eau glacée. Il y a une sorte d'aspirateur au fond qui pourrait l'entraîner au fond et il n'a pas de bouteille.
Non, il n'a pas de bouteille. Il est relié à moi par une corde à ce moment-là. Mais bon, moi, je le vois à peine. Il y a des remous terribles. Il y a un bruit assourdissant au fond de ce truc. Lui, sous l'eau, il a moins de bruit. Mais nous, en surface, on se fait arroser. Ouais, c'est assez spectaculaire comme ambiance. On va dire que c'est hostile, voilà.
Oui.
On est trempé. Et lui, il y tient une heure. Il a tenu une heure, je crois, dans l'eau.
Pas en
apnée, mais il a fait, je ne sais pas combien d'apnées pour tout ça. Mais à chaque fois, il reste 2-3 minutes sous l'eau sans aucun problème. Et il faut imaginer que l'apnée, c'est quelque chose qu'on peut faire chez nous dans nos eaux à 25, 26, 27 degrés. Mais là, à 1 degré, le corps consomme évidemment beaucoup plus de calories, donc a besoin de respirer beaucoup plus vite. Et pour autant, lui, il reste là-dedans, il est à l'aise. Il était comme un poisson dans l'eau, vraiment, c'était le cas de le dire.
Ah, mais il a l'air d'avoir vécu une expérience de sa vie. Il en a vécu d'autres, cet apnéiste qui est allé aussi en Antarctique regarder les baleines. Mais là, en l'occurrence...
C'est spécial parce qu'on est complètement enfermé en fait dans ce trou. Déjà, on descend en rappel. Il avait jamais fait de rappel. C'était le premier rappel de sa vie. Il descend sur corde, et donc il avait ses crampons aux pieds, des palmes qui pendaient à son baudrier. Donc déjà, là, la scène était assez atypique. Et puis, il a fallu s'installer dans l'eau. C'est vraiment pas mal commode, quoi. Et là, il y a donc ce fameux bruit qui ne sort pas. Donc, ça résonne de partout. On n'arrive plus à se parler, même à 1 mètre. Et là, il bascule sous l'eau. Et dessous, c'est bleu, là encore, des couleurs complètement... C'est difficile à décrire parce que c'est vraiment des univers qu'on ne voit pas, qu'on voit rarement. Ouais, il a vécu quelque chose de fort, nous aussi à l'extérieur, mais lui, dessous, ça devait être incroyable.
Et votre exploration ne s'arrête pas là. Vous vouliez suivre les véritables rivières souterraines qui coulent sous le glacier dans des sortes de cavernes de glace. Là aussi, vous n'avez pas été déçu du voyage. On en parle dans un instant sur France Inter, dans le temps d'un bivouac, Evrard Van Den Boom.
I'm not running away. Water is running like I stay. Constant growing up. I'm not making this up.
Not Running Away, c'était Feist sur France Inter, le temps d'un bivouac.
C'est magique, incroyable. Là, on est à l'intérieur du glacier, on est sous le glacier. Là, faut être prudent, il y a l'air d'avoir une petite dépression. On va vérifier que c'est pas un trou, qu'il n'y a pas de danger. Ça continue, là, c'est majeur. Wouh ! Une petite cavité encore, là. Ah, on s'en lasse pas, hein. Incroyable. Trop beau. Regarde la langue, là, au-dessus. T'as vu ? Là, c'est incroyable. Incroyable, ce qu'on voit, c'est le palais des glaces. J'ai jamais vu des cristaux de glace aussi gros que ça. On retrouve des formes en hexagone, en cône. Ça, c'est des gobelets. Et c'est des gobelets plus gros que le pouce. Ils sont tous là, j'ai jamais vu ça.
Un nouvel extrait de votre film, Evrard Vandenbaum, les murmures de la glace. Là, c'est Éric Larose, qui est sismologue, qu'on entend comme un enfant dans un magasin de bonbons. Là, il n'en revient pas, il y a des cavités, ça n'en finit plus, on ne s'en lasse pas. Il y a des formidables formes là de cristaux et on se retrouve sous le glacier. Il ne faut pas être claustrophobe.
Ouais, on avait quelques dizaines de mètres d'épaisseur de glace au-dessus et puis il faut dire que ça bouge. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, les glaciers, ça bouge tout le temps, ouais. Tout au long de la journée. Donc ça fait aussi des craquements terribles. Quand on est là-dessous, c'est pas rassurant du tout. Mais il faut imaginer que là, à cet endroit-là, ce qu'on vient d'entendre, c'était à l'exutoire du glacier, c'est-à-dire vraiment la partie la plus extrême, le bout du glacier, là où il fond, là où il disparaît, quoi. Ouais. Mais qu'à cet endroit-là, il y a toutes les eaux des 50 km, 60 km plus haut qui sont drainées dans plusieurs moulins, qui se rejoignent toutes en un collecteur, un endroit où il y a un débit monstrueux de flotte qui passe sous le glacier et qui sort du coup à un moment donné à l'air libre. Ouais. Et nous, on est rentrés dans cet exutoire-là, on a trouvé une petite galerie dans les environs et on a progressé comme ça sur peut-être 150 mètres, 200 mètres à l'intérieur du glacier, ouais. C'était incroyable, avec des cristaux partout, ça brillait dans tous les sens.
Donc on comprend qu'à l'intérieur des glaciers, il y a ces rivières souterraines, un peu comme il y a des nappes phréatiques ou des rivières souterraines sous nos contrées. Dans la glace, tout ça, ça se reconstitue. Alors ça doit se creuser bien plus rapidement, hein, ces creusements de galeries
la
glace.
Ça se fait en l'espace d'une saison, ça peut se faire en plusieurs saisons, mais en général c'est une saison, puisque l'hiver, évidemment, il n'y a plus aucune fonte, il n'y a plus d'eau qui coule, et donc il n'y a plus non plus d'eau qui coule sous le glacier. Mais à un moment donné, l'eau qui fond à la surface, comme on l'a dit tout à l'heure, elle coule dans ces fameuses baignières, puis elle rentre dans le moulin. Mais il faut bien qu'elle sorte à un moment, sinon voilà, il y a forcément une sortie à cette eau. Et tout ça, ça se rejoint à un moment donné sous le glacier. Il peut y avoir deux exutoires, c'est-à-dire deux grosses rivières qui sortent. Mais là, il y en avait qu'un et c'est extraordinaire. Ça fait un bruit fantastique. Puis l'eau est pas du tout claire comme on l'imagine. En surface, l'eau elle est limpide, elle est transparente, elle est magnifique. Mais une fois qu'elle a raclé le fond du glacier, au fond du glacier, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, il y a pas de rochers directement. Enfin, il peut y en avoir de temps en temps, mais souvent c'est plutôt des graviers, des sables, des alluvions, voilà, des argiles et autres. Et du coup, l'eau est complètement marron, ça charrie des gros blocs. C'est assez austère. Ouais. Et à quelques mètres de là, on rentre dans la glace, il y a plus un bruit. Que des petits cristaux qui brillent partout. On n'entend que nos crissements de crampons, de gants, etc. Oh, c'est génial, c'est vraiment un voyage.
France Inter, le temps d'un bivouac.
Depuis ce matin, je suis des bœufs musqués. Je me suis posté là sur une petite butte. Il y en a un juste devant. Ce qui serait cool, ce serait qu'ils viennent par ici. Oh, la gueule qu'il a, celui-là, avec sa corne cassée. Il est magnifique. Le pauvre, il a une toison en lambeaux. Il paraît que la laine de bœuf musqué est 8 fois plus chaude que celle des moutons. Tu me diras, il vaut mieux parce que les pauvres, ils se coltinent des températures négatives pendant les 2/3 de l'année.
Face à face entre un photographe, Evrard Vandenbaum, et un bœuf musqué dont j'ignore le nom, quelque part sur une terre inexplorée du Groenland. Ce sont des rencontres qui doivent marquer Evrard Vandenbaum.
Ouais, surtout la première.
C'est impressionnant, hein, ces animaux.
Ah, c'est une très grosse bête qui, en plus, a une vivacité étonnante. C'est-à-dire qu'on s'attend à, on s'attend pas trop à ce que ça puisse bouger rapidement. Et c'est vraiment, en fait, c'est beaucoup plus proche des moutons que des bœufs. Hein. C'est pas vraiment un bœuf en réalité.
Et au niveau du gabarit, c'est plus proche du bœuf que voilà, du mouton.
Au niveau du gabarit, c'est ça. Ouais. Et c'est capable de grimper des versants pratiquement verticaux. Hein. Je raconte pas de bobards. C'est impressionnant la capacité qu'ils ont à grimper des chaos de blocs et de choses comme ça. Et du coup, quand on est face à une bestiole comme ça, on se sent légèrement vulnérable parce qu'il n'y a pas un endroit où on peut se mettre à l'abri, en fait.
Ouais. Et surtout qu'on vous avait dit qu'il fallait plus se méfier finalement d'eux que des ours polaires.
Ouais, c'est un sale caractère, en fait. Donc, ça a une certaine tendance à la curiosité d'abord. Ils ont envie de voir qui vient se pointer dans son territoire. Et puis, une fois que la curiosité est passée, il a envie de charger, quoi, tu vois. Donc, la première fois, j'étais tout seul, et on venait juste de débarquer. Ça faisait peut-être 4 jours qu'on était au Groenland. Et j'étais parti faire une dépose de matériel pour les biologistes. Et j'étais vraiment tout seul, et je me suis retrouvé au détour d'une colline, nez à nez, avec une de ces grosses bêtes. Et j'avoue que j'ai pas été complètement serein. En plus, j'avais posé mon fusil, quelques 200 mètres avant. Et donc j'avais absolument rien pour me défendre. Et je sais que Laurent Marie, qu'on a entendu tout à l'heure, l'apnéiste, il a eu exactement la même expérience que moi, mais en pire, c'est-à-dire qu'il s'est carrément fait charger.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait alors?
Il a reculé tout ce qu'il pouvait, et puis il a grimpé sur un petit talus derrière lui, et le bœuf, en fait, s'est arrêté devant lui. Donc c'était plus pour l'impressionner, sans doute, que pour vraiment le mettre par terre. Ouais. Mais il faut pas, quand on voit la puissance des chocs, parce que entre eux, au moment des parades, ils ont tendance à se battre pas mal de mâle contre mâle, et ça fait un bruit. Alors on les voit courir 30 mètres l'un vers l'autre, à fond, vraiment à fond, et bam, ils cognent leurs cornes. C'est extrêmement violent. Quoi. Et donc, on se dit que si on est à la place de l'autre bœuf, on est mal.
Alors, ces animaux risquent quand même d'être légèrement dérangés, pour pas dire plus, par le changement climatique et par le réchauffement de la planète. Parce qu'avec leur toison, évidemment, ils sont pas faits pour que ça se réchauffe.
Exactement, ouais. Dès que on dépasse à peu près 10 degrés de température, ils sont en survie, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas faits pour ça. Or, le Groenland, contrairement à nos territoires à nous qui subissons, on va dire, le réchauffement climatique, mais de manière très modérée, hein. On parle ici de 1 degré, 1 degré et demi, etc. Là-bas, c'est beaucoup plus important, mais c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'au Groenland, on a des augmentations de 6 degrés dans certaines zones. Et ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait qu'accélérer. Donc là, des endroits qui, jusqu'à présent, ne voyaient jamais des températures supérieures à 10 degrés, aujourd'hui, elles en voient pendant 2 mois de l'été. Et typiquement, là où on a été l'été dernier, on a eu 54 jours de beau sur 60 jours sur place, grosso modo. Il a fait très chaud tout l'été. Et c'est frappant, c'est vraiment frappant.
Alors, un des objectifs de votre expédition, Évrard, c'était aussi justement d'informer et d'alerter sur les régions arctiques et leur sort. C'est aussi le but de votre association, plus généralement, Nature Évolution. Maintenant, partout où vous allez, ce sont des territoires perdus, des territoires menacés. Le prochain, c'est le Makai, c'est à Madagascar, un territoire qui vous est cher aussi.
Ouais, c'est un endroit que j'avais commencé à explorer en 2007 et qui a donné lieu à un programme de conservation depuis. C'est-à-dire qu'on a fait des missions scientifiques, puis on a essayé de faire ce qu'il fallait pour essayer de protéger cette région, qui fait 150 km sur 30 environ. C'est donc assez grand, voire très grand. Superbe massif de montagne avec des poches de végétation isolées comme ça, qui sont protégées du reste du monde, mais pas si protégé que ça, parce que les flammes, elles s'arrêtent pas à une muraille, quoi. Elles trouvent toujours le moyen de progresser, et malheureusement, les populations locales ont une fâcheuse tendance à mettre le feu, ce qui fait qu'à un moment donné, ces flammes touchent les forêts primaires du coin, et ça a un impact assez dramatique et assez rapide. Donc voilà, nous on a essayé de développer depuis maintenant 2009 un programme de conservation, on travaillait avec les populations locales, et on a été désigné par l'État malgache gestionnaire de la nouvelle aire protégée du Makai.
Merci Évrard Vandenboom, on peut retrouver le site de votre association Nature Évolution sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. Merci à vous.
Merci Daniel.
Dans un instant, entre désert hostile et territoire interdit, nous allons partir à la découverte de quelques lieux singuliers de notre planète avec Aude de Tocqueville qui signe un atlas des terres sauvages aux éditions Artaud. Mais on reste encore un peu dans les glaces du Grand Nord avec une chanteuse groenlandaise, Niv Nielsen. There's a you C'était Niamh Nielsen et The Dear Children qui chantaient Room sur France Inter. La programmation de cette émission est signée Valentine Chédebois.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Il y a beaucoup de gaz.
Il y a plein de petites cheminées là.
Oui, ça part de partout. Ouais. On sent la chaleur d'ailleurs.
On commence à sentir, oui.
Donc tout ça, c'est des petites sorties qui sont éphémères et qui sont mortes maintenant. Mais donc là,
on en voit d'autres qui se forment.
Waouh,
c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, le jaune, il est...
Il souffre, c'est l'enfer. Hein. Ouais, c'est... Welcome to hell.
Bienvenue en enfer, nous disent ces chercheurs sur le site de Dalol, dans le désert du Danakil, en Éthiopie. Bonjour, Aude de Tocqueville.
Bonjour.
Le désert du Danakil, voilà un des lieux qui figure en bonne place dans votre atlas des terres sauvages. Vous venez de le publier aux éditions Artaud. Décrivez-nous un peu cet endroit.
Ce désert du Danakil se trouve au cœur de la dépression de l'Afar, dans la vallée du Rift. Et au cœur de cette dépression de l'Afar, il y a un site qui s'appelle Dalol, qui se trouve à peu près, pour vous situer, à 15 km de l'Érythrée, et qui est vraiment ce qu'on peut appeler l'endroit le plus sauvage, c'est la Terre à ses débuts, disent les scientifiques. Et c'est un endroit totalement saisissant. Quand vous vous y baladez, vous voyez des colonnes de soufre, des geysers d'eau brûlante, une terre qui craquelle, toujours en mouvement, parce que c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de mouvements sismiques. Donc c'est un endroit à la fois effrayant et passionnant.
Oui, Haroun Taziev, il lui a consacré un ouvrage entier, hein, L'odeur du soufre, c'est le titre qu'il avait donné à cet ouvrage.
Eh bien oui, c'était vraiment son sujet. Mais c'est vraiment un endroit étonnamment où il y a encore de la vie.
Oui, la vie a réussi à trouver son chemin dans cet univers essentiellement minéral tout de même.
Oui, on avait toujours dit avant 2016 que rien ne pouvait survivre ici. Mmh. Imaginez un peu la Lune aussi, vous voyez, comme paysage. Et en 2016, une équipe de chercheurs a trouvé des micro-organismes qui ont prouvé qu'en fait, avec de l'eau, même chaude, même acide, même tellement salée, on pouvait trouver de la vie.
Oui. Alors dans votre atlas, on trouve deux grandes catégories de lieux. Il y a ces terres presque vierges, un peu impénétrables. Et puis, il y en a d'autres que l'homme a transformées, a rendues lui-même sauvages.
Oui, c'est étonnant parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre, je pensais vraiment écrire sur la nature pure, des déserts immenses, des montagnes inatteignables. Et puis, je me suis dit que j'allais avoir beaucoup de mal à trouver ces sujets, puisque avec le développement du tourisme au début du 19e siècle, et puis les évolutions technologiques, les endroits inviolés se rétrécissaient comme peau de chagrin. Mmh. Et j'ai découvert que l'homme pouvait recréer des territoires interdits. Mmh. Et ça, c'était assez étonnant.
Ah oui. Alors, on va en parler de ces territoires interdits que l'homme a générés. Un mot quand même sur ces terres inconnues, les terres vierges, où quasiment aucun homme n'est encore allé. Il y a la cordillère de Darwin. Alors là, on est à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, en terre de feu chilienne. Et on trouve là une chaîne de montagnes sur laquelle seulement très récemment, des hommes ont réussi à aller.
Mais oui, parce que c'est une chaîne de montagnes avec au centre des glaciers immenses. Cette chaîne de montagnes a un climat épouvantable. Vous pouvez avoir des bourrasques de vent à 250 km à l'heure qui arrivent tout de suite. Des changements de température extrêmes. Au XVIe siècle, Magellan y est passé, n'a pas pu arriver. Parce qu'on ne peut pas, sauf en bateau, on ne peut pas atteindre cette cordillère. En fait, c'est la fin de la cordillère des Andes. Et c'est vraiment à l'extrême sud du Chili.
Et en 2011, pour la première fois, cette cordillère de Darwin a été traversée. Elle ne l'avait jamais été auparavant.
C'est ça qui est totalement étonnant. Elle s'appelle Darwin parce que c'est le naturaliste et fameux paléontologue Charles Darwin qui y était passé en 1830.
Au large, avec son bateau.
Au large, exactement. Ouais. Et le capitaine du bateau l'avait appelé cette chaîne de montagnes en son honneur, Darwin. Mais personne n'avait pu affronter ce climat, ces glaciers, jusqu'en donc 2011, où une équipe de militaires l'a traversée d'est en ouest pendant 28 jours.
Ouais. Le groupe militaire de haute montagne qui l'a traversé 150 km en 28 jours. Alors, on en trouve d'autres. L'archipel de Saint-Brandon, une île déserte, un peu oubliée.
Alors, une île, enfin, on ne sait pas le nombre d'îles, parce que quand la mer est basse, c'est 45 îles, quand la mer est haute, c'est 20 îles. Ouais. C'est un archipel qui se trouve au nord-est de l'île Maurice, qui appartient à l'île Maurice. Et le contraste est quand même étonnant entre ce côté totalement sauvage. C'est un mirage d'îles qui apparaît et disparaît au gré de l'océan, des tempêtes. Et cet archipel est intéressant parce qu'il est carrément inatteignable, puisqu'il y a des récifs très hauts, avec une barrière de corail très dangereuse. Donc, il y a quelques pêcheurs qui ont vécu là, mais c'est resté très sauvage.
Voilà pour les quelques lieux isolés sur Terre. Et puis, il y a ces lieux que les humains ont transformés au point d'en faire des zones à part sur Terre, à l'image de la zone d'exclusion de Tchernobyl. C'est un exemple emblématique.
Mais oui, tout le monde connaît l'histoire de cette centrale nucléaire qui a explosé en avril 1986. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, 30 ans après, ce qui se passe dans le domaine de la flore et de la faune. Donc aujourd'hui, autour de la centrale, il y a un territoire interdit de 30 km tout autour qui est encerclé de barbelés. Et à l'intérieur, les chercheurs ont vu que la faune s'était développée à une vitesse galopante, 7 fois plus importante que les parcs nationaux qui n'ont pas été contaminés en Ukraine autour. Et cette faune donc vit en toute liberté et dans cet endroit, quand même terrifiant par son histoire, cet endroit devient un laboratoire d'études de retour à la vie sauvage.
Avec tout de même quelques mutations. Vous dites certains arbres notamment qui présentent des malformations.
Oui, la zone est vraiment remplie de forêts, spécialement des conifères, et les aiguilles sont plus petites ou plus longues que normales. Sur ces arbres, il n'y a pas forcément des bourgeons. Les animaux, notamment les oiseaux, ont un ADN très abîmé.
Autre site transformé, abîmé par l'homme, le point Nemo. Alors là, on est en plein milieu de l'océan Pacifique. Qu'est-ce que c'est que le point Nemo ?
Alors le point Nemo, c'est plutôt une zone d'ailleurs, parce qu'elle fait 22 millions de kilomètres carrés, plus grande que l'ex-URSS, vous imaginez. Et c'est une zone qui a été choisie par les autorités spatiales pour faire amerrir tous les débris des engins spatiaux, des satellites. En fait, c'est un cimetière spatial.
Ouais. Plus qu'amerrir, en fait, ils viennent, ils coulent, ces débris spatiaux, ces restes de satellites, de stations Mir, par exemple.
Exactement. La station Mir et récemment, en 2018, la station chinoise dont on a beaucoup parlé parce qu'elle a erré 2 ans dans l'atmosphère avant d'être attirée dans cette zone et je crois que les Chinois avaient très peur qu'elle ne tombe pas exactement là où il fallait.
On sait combien de restes de satellites et de stations spatiales se trouvent à cette zone qu'on appelle le point Nemo ?
Tout à fait, entre 250 et 300 débris spatiaux.
Ça a abîmé les fonds marins à cet endroit ?
Et ça, c'est une bonne question. C'est justement parce que les scientifiques savaient que ces fonds marins à cet endroit-là font à peu près 4 km de profondeur. Et ce sont des fonds qui sont très très pauvres en faune et en flore. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi choisi cet endroit.
On peut imaginer tout de même que ça a dû déranger certaines formes de vie. Et puis, il y a parmi ces zones insolites, déroutantes, transformées par l'homme, les souterrains de New York. Là vivent des milliers et des milliers de personnes qui se sont réfugiées là.
Oui, ça je crois que c'est l'histoire la plus effrayante de ce livre. Oui. Il y a à peu près 30 000 personnes qui vivent sous la ville de New York. Et ce sont des vétérans de la guerre du Vietnam, des SDF, des gens en fait que la société américaine, au moment notamment de la crise de 1970, a rejeté. Il y a à peu près 7 niveaux sous terre, ce qui est énorme. Et ils habitent dans les restes d'égouts, dans les tunnels, les stations de métro fermées.
Quand a-t-on pris conscience que ces personnes vivaient terré dans les bas-fonds de New York ?
En 1993, quand un écrivain américain a écrit un livre qu'elle a baptisé « Les hommes taupes ». Et tout d'un coup, les New-Yorkais se sont aperçus qu'il y avait un monde, et ça les a totalement effrayés. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant quelques années, jusqu'en 2000, où le maire de New York a décidé d'essayer d'éradiquer ce phénomène un peu effrayant pour lui, mais ça n'a pas marché du tout.
C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui vivent dans ces bas-fonds new-yorkais.
Mais oui, plus que jamais.
Ouais. Mais ils ne sortent pas, ils ne sortent quasiment jamais.
La plupart ne sortent pas. Pour survivre, ils envoient des coursiers à l'extérieur pour rapporter des vivres et ce qui est nécessaire à la vie dans une vie qui est extrêmement violente, évidemment, vous pouvez imaginer.
Une dernière destination moins effrayante de votre atlas des terres sauvages, une en France, parce qu'il y en a des destinations dans votre atlas qui recouvrent le sol métropolitain, et une dans Paris, c'est le jardin Saint-Vincent.
Oui, j'ai voulu aussi raconter que même à Paris, très urbanisé, il reste un petit endroit qui se trouve au bout du musée de Montmartre, je ne sais pas si vous voyez, sur la face nord de la butte Montmartre, qui fait à peu près à peine un hectare. Dans les années 80, la ville de Paris l'a récupéré, parce que c'était l'ancien jardin en fait, de la maison, de l'hôtel particulier où se trouve aujourd'hui le musée de Montmartre. Et la ville de Paris a décidé d'en faire une friche urbaine et a gardé cet endroit complètement vierge de toute introduction de la main humaine. Mmh. C'est-à-dire que tout pousse comme ça. Il y a une centaine d'espèces de plantes, il y a une cinquantaine d'espèces animales et on peut à peine le visiter.
Ouais, et c'est un observatoire. En fait, on regarde comment la biodiversité reprend ses droits quand on la laisse tranquille, même en pleine ville.
Exactement. Et il n'y a pas de jardinier de Paris qui vienne s'en occuper.
Alors ça se visite quand même. Hein. Vous dites on n'intervient pas du tout. Ça se visite quelques dimanches par an avec des spécialistes de la flore et de l'écologie, et j'imagine avec beaucoup de prudence également. Et puis un dernier clin d'œil, c'est que sur ce site, Georges Cuvier, en son temps, au 19e siècle, avait identifié des traces fossiles de poissons et de crocodiles, vestiges d'une faune pour le coup réellement sauvage qui a vécu là. Donc une terre sauvage, ça évolue dans le temps.
Eh bien oui, et c'est vraiment un clin d'œil de l'histoire de cette friche urbaine. Et maintenant, vous pouvez voir ces fossiles, d'ailleurs, qui sont au musée du Jardin des Plantes.
Merci, Aude de Tocqueville. Et je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Artaud, Atlas des terres sauvages, avec une très jolie préface de Jean-Paul Kaufmann. Merci à vous.
Merci.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast avec l'appli Radio France. Merci pour les nombreux messages que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission ou sur franceinter.fr. Nous les lisons toujours avec beaucoup d'intérêt. À samedi prochain pour de nouvelles aventures. Dans un instant, on grimpe sur les épaules de Darwin avec Jean-Claude Amezen qui s'intéresse aujourd'hui à la faille de Cascadia.